Écoutez, téléchargez et partagez toutes les émissions du OFF 2017 sur www.osmose-radio.fr.
Osmose Radio, la web radio du OFF.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Osmose dans la couleur des planches. Alors aujourd'hui, je vous emmène redécouvrir Molière et son Don Juan, qui a pris un sacré coup de jeune avec la Compagnie des Loups, qui nous présente une création collective à 21h20 au Théâtre des Deux Galeries. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux de ses comédiens, Aurélien Grelier, bonjour.
Bonjour.
Et Luigi Tancredi, bonjour.
Bonjour.
Messieurs, vous nous présentez une totale adaptation de Molière. Vous apportez beaucoup de modernité, de l'humour. Est-ce que vous pouvez nous parler de tous les changements que vous avez opérés, aussi bien dans les rôles que dans le rapport d'autorité, que dans les répliques ?
Déjà, c'est vrai qu'on a fait énormément de coupes. Donc, c'est aussi pour venir à Avignon, le format était beaucoup plus court. Donc on est passé d'un spectacle qui aurait pu durer 3h30 à 1h15. Donc ça implique déjà qu'il y a beaucoup de personnages qui ont disparu. On est focalisé un peu sur les 8 personnages principaux. Et à partir de là, on essaye de suivre quand même une trame narrative assez cohérente autour de Don Juan et des personnages qui vont intervenir aussi tout au long de son chemin. Et comment est-ce que tous ces rapports-là, finalement, vont devenir des moments d'humiliation pour les personnes qu'il va rencontrer et qui vont finalement lui faire payer aussi le prix de son comportement pendant toute sa vie. Donc ça passe aussi par quelques changements de mise en scène, mais c'est vrai que finalement ce qu'on a essayé de raconter, on a mis beaucoup le texte en avant, on est à l'origine une bande d'acteurs, donc c'est vrai qu'on s'est formé un peu comme ça à travailler des scènes aussi, à travailler du texte, donc peut-être que l'univers est un peu moins appuyé que ce qu'on essaie de raconter à travers les mots, à travers les répliques entre les personnages, et donc essayer de créer vraiment des rapports de personnages auxquels les gens peuvent s'identifier. Par exemple entre Charlotte et Pierrot, enfin voilà, on essaie à chaque fois de raconter en tout cas des choses contemporaines que les gens peuvent voir avec un peu ce sentiment aussi de ce que peut être la peine. Moi j'ai l'impression que on parle beaucoup de ça quoi, de trucs de malaise quoi, c'est-à-dire comment est-ce que à certains moments des rencontres peuvent être ce que nous on a tendance à appeler un peu malaisantes quoi, mais qui en tout cas vont créer des moments de gêne énormes. Et vont se transformer peu à peu, petit à petit, même si on a peu de temps parce qu'on n'a qu'une heure et quart, mais en des petits moments d'humiliation assez violents et sur lesquels en fait les personnages ne vont pas accepter cette chose-là et vont être en rapport de confrontation.
Vous parliez justement de modernité et du fait de parler de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une pièce intemporelle parce que l'impiété et le côté volage du personnage qui justement a donné son nom aujourd'hui aux jeunes séducteur sera toujours d'actualité. C'est une pièce qu'on pourra jouer à n'importe quelle époque, elle résonnera toujours par rapport au contexte.
Oui, mais je pense aujourd'hui, évidemment, dans la pièce originale, la religion avait une place très importante. Alors, aujourd'hui, on peut prendre ce qu'on veut autour. Par exemple, moi, quand je vois les monologues d'hypocrisie, je peux mettre de la politique dessus. Ça marche très très bien parce que le discours reste le même, même si c'est la religion dont il est question dans ce monologue-là. Et je pense...
Ouais, c'est vrai qu'on s'était posé aussi cette question-là parce qu'on voulait savoir comment traiter un petit peu la foi, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui à des gens. Par exemple, il y a la scène du pauvre qui est quand même une scène importante et souvent très attendue dans Don Juan et où Don Juan lui dit « Je te donne un louis d'or si tu veux jurer ». Mais alors effectivement c'est intemporel, mais en même temps quand on dit ça aux gens, si là maintenant je vous dis je vous donne 10 euros si vous voulez bien jurer, ça va pas vous poser beaucoup de problèmes. Et donc en fait la question c'est aussi comment en tant qu'acteur on peut redonner de la force, de la puissance et un souffle aussi à cette idée de la, au-delà même de la religion, de l'institution, en tout cas donner du poids aux mots jurés, aux mots qui parlent de la foi quoi. Donc c'est vrai qu'après on se raconte un petit peu ce qu'on veut, mais c'est pour ça qu'on décale en fait le rapport des personnages pour décaler le rapport à la foi aussi, même si c'est pas ce qu'on traite le plus dans Don Juan, c'est une partie quand même qui est très importante dans l'œuvre de Molière.
Et le décalage il s'opère aussi parce que vous utilisez d'autres langages, vous ne passez pas que par la parole, mais aussi par le corps et le chant.
Oui, ça c'est Luigi qui peut vous en parler. Il fait sa magnifique danse en tenue de médecin.
Il y a la fameuse scène du médecin quand Don Juan Esganarelle, dans la pièce originale, essaie d'échapper à des gens qui leur veulent du mal, et du coup ils se déguisent tous deux. Et donc nous on a pris le parti pris que déjà ce ne soit que Esganarelle qui soit habillé, qui soit déguisé, et que leur rentrée, pour faire une transition, en fait, se fait en danse. Et Don Juan Esganarelle arrive sur le plateau et vraiment s'exprime corporellement sur ça, comme aujourd'hui, par exemple, en mode de nuit, on peut l'être, on peut s'éclater, et c'est un peu ça, ce qu'on essaie de montrer, c'est comment deux jeunes, vraiment deux amis, après peut-être une soirée un peu trop arrosée, ben, s'éclatent, dansent, se lâchent complètement. Et c'est vraiment cette partie pris qu'on a pris, c'est que Don Juan Esganarelle soit de vrais amis. Donc on a vraiment aboli ce rapport
d'autorité,
d'argent qui peut être instauré entre les deux, pour vraiment en faire de vrais amis. Et c'est ça vraiment qu'on on a aussi à cœur de pouvoir le raconter. Et je pense qu'on arrive
qu'au fur et à mesure, en plus, finalement tout ça s'exprime un peu de soi-même aussi. C'est là, on a 20 ans, on a 20, entre 20 ans et 25 ans, donc passer par le corps, au-delà même de ce que ça peut raconter en termes de narration, c'est aussi un moyen simplement de donner de la vie à notre spectacle et de pouvoir rythmer un petit peu tout ça avec l'énergie qu'on a tous les jours, parce que après ça va boire des coups, place des corsins, tout ça machin. Donc je me dis, pourquoi est-ce que si on n'aurait pas on a envie de danser tout le temps, pourquoi ne pas danser aussi sur le plateau? C'est aussi ça, je pense que les spectateurs ils voient après cette énergie là, cette dynamique là aussi dans le spectacle, quoi, cette volonté en tout cas d'être tout le temps en mouvement. Je pense que les gens ils nous disent beaucoup ça, que clairement ça ne manque pas d'énergie et que c'est tout le temps en mouvement, en train d'avancer, parfois un peu trop rapidement, mais en tout cas ça avance, quoi.
Comment ça s'est déroulé cette création collective, où justement là encore une fois vous abolissez un pseudo rapport d'autorité qui peut y avoir entre un metteur en scène et ses comédiens?
C'est très drôle, parce qu'à la base en fait c'est un projet qui a été amené par Benjamin et moi et Teddy. Et c'est un truc qu'on a présenté quand on a fait le concours national supérieur d'art dramatique. Et c'est cette pièce qui nous a fait rentrer un peu au conservatoire. Et c'est à partir de là qu'est née vraiment l'idée de pouvoir monter cette scène. Donc on est vraiment le trio de départ. Et au fur et à mesure que les gens arrivaient, on a élargi vraiment la mise en scène, parce qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. Le fait d'être deux, voire trois, il y a un moment où on sature et on ne trouve plus d'idées. Donc du coup, les autres sont arrivés et ça nous a redonné un gain d'énergie et de créativité sur le plateau. Et c'est quelque chose, c'est vraiment un vent d'air frais, ça nous a vraiment fait beaucoup de bien. Et sur ça, c'est devenu vraiment un travail collectif.
Et est-ce que ce n'est pas compliqué de s'emparer à vos âges de la maturité d'un tel personnage? Je pense qu'on a dû souvent vous poser la question.
Ah ouais, quasiment tous les jours. Mais nous aussi, on se la pose, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on on lutte aussi tous les jours pour essayer de ne pas rendre ce spectacle anecdotique, finalement. Parce que c'est ça notre grande peur, c'est de se dire on peut avoir un Don Juan un peu dragueur, un peu jeune con, vous voyez, genre qui ou simplement les gens vont se dire oui d'accord, Don Juan un peu dragueur qui fait des clins d'œil à des filles, tout ça, c'est pas vraiment ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus vertigineux clairement à trouver là-dedans, dans son rapport à la foi, dans son rapport à la vie finalement, qui est très intense, très violent et très fort. Et dans cette chose-là, oui, on peut parfois se demander est-ce que réellement il y a eu toutes les strates d'expérimentation au préalable pour pouvoir intégrer tout ce que dit Don Juan et avoir une telle évolution, parce que c'est surtout ça aussi pendant le spectacle et pendant tout le texte, finalement il y a une évolution énorme entre toujours entre le mensonge et la sincérité, mais en même temps un mensonge sincère, c'est comment il est interprété par les gens autour.
Donc, toujours une part de vérité.
Tout ça, c'est des grosses questions aussi qu'on s'est posées avec Benjamin quand on a travaillé vraiment à qu'il fallait qu'en fait tout soit premier degré, tout soit le plus sincère possible pour que le mensonge ne soit raconté que par la trame narrative, en fait. Molière a écrit le texte de manière à ce que le spectateur puisse comprendre qu'un texte, par exemple, est un mensonge. Et en même temps, nous, on n'a pas besoin de le jouer, parce que plus il va être sincère là-dedans, plus c'est les personnages autour, la manière dont est construit le récit qui va qui va dire au spectateur regardez ce type là est vraiment un gros salaud et en train de raconter des bêtises à tout le monde. Mais donc ouais, en effet, c'est parfois je pense qu'on frôle un peu ça et ça nous fait peur et donc on essaye toujours de remonter un peu les enjeux de Don Juan, remonter un peu les enjeux aussi des personnages qui arrivent autour, que tout soit une vraie tragédie aussi pour tous ces personnages là. Pierrot qui vient se faire piquer sa fille,
copine.
Coup, c'est super incestueux. Non, mais il vient se faire piquer sa copine et clairement, lui, il est en train de vivre la tragédie de sa vie. Et face à la légèreté de Don Juan qui fait ça avec une facilité déconcertante, c'est là que vient le drame, quoi. C'est que
créer des contrastes.
C'est exactement ça.
Eh bien écoutez, en tout cas, on conseille à tout le monde d'aller découvrir cette belle énergie sur scène avec vous tous les jours, donc sauf les lundis,
exact.
À 21h20 au Théâtre des Deux Galeries. Je vous souhaite un bon festival. Et moi, je vais vous parler d'une pièce qui s'appelle Intramuros, donc un petit changement radical d'univers pour se retrouver en prison avec le metteur en scène Alexis Michalik, vedette donc de ces dernières années, qui a pour une autre de ses créations raflé 5 Molières à la dernière 29e édition. Pendant le œuf, il présente donc cette pièce, Intramuros, qu'il a écrite et mise en scène et qui se joue tous les jours à 10h30 au Théâtre des Béliers. Alexis Michalik, c'est un homme de théâtre qui, dans tous ses spectacles, adore raconter des histoires. Voir une de ses pièces, c'est en fait un peu comme lire un bon roman confortable dont l'histoire fonctionne. Cette fois, il s'empare d'un univers qui est un petit peu plus dur qu'à l'accoutumée. Il s'agit d'une pièce qui se déroule dans une prison centrale. Un metteur en scène va donner des cours de théâtre en prison. Il est accompagné de son ex-femme qui est là en tant que comédienne intervenante et aussi d'une assistante sociale qui vient un petit peu de débarquer dans cet univers-là. Le spectateur entre vraiment dans l'univers carcéral. Le problème, c'est que les cours de théâtre démarrent avec seulement deux détenus, Kevin et Ange. Deux prisonniers dont l'intimité et les raisons de leur condamnation seront peu à peu révélées au public. Dans cette pièce, le théâtre, en fait, est un bon moyen de se mettre dans la peau de l'autre, de remonter le temps et aussi d'inventer un avenir plein d'espoir et plein de bonheur. Alexis Michalik s'amuse vraiment avec les codes du théâtre. Il arrive à brouiller les pistes. Donc le spectateur ne sait plus s'il assiste à un cours de théâtre ou au destin des personnages. Voilà, donc il faut vraiment réserver ce spectacle parce que la pièce est victime de son succès et elle a lieu tous les jours à 10h30 au Théâtre des Béliers. Je vous souhaite un bon festival.